Bonjour à tous, Ludovic Malot, vous êtes sur France Liberté. Mon invité aujourd'hui est Jacques Bellazet. Vous êtes auteur de plusieurs livres, dont les derniers, Les fils d'Esculape, Carbone et Le camion de lait. Jacques Bellazet, bienvenue à France Liberté.
Bonjour à tous, merci de m'accueillir.
Avant de poursuivre, partagez maintenant cet épisode sur les réseaux sociaux et via les plateformes de messagerie. Et très important, abonnez-vous maintenant à la chaîne YouTube de France Liberté et inscrivez-vous sur notre liste de contacts sur franceliberté.tv. Et enfin, rejoignez le canal de France Liberté sur Telegram. À tous les auditeurs, merci pour votre soutien à France Liberté par un don pour couvrir nos frais de développement et de post-production par PayPal ou virement indiqué en description en dessous de cette vidéo. Alors c'est parti, dans la ligne éditoriale de notre chaîne sur la thématique de la médecine allopathique, nous faisons découvrir aujourd'hui un auteur et son roman intitulé « Les fils d'Esculape ». Jacques Bellazet, pourriez-vous vous présenter dans un premier temps ainsi que votre ouvrage et la signification d'Esculape ?
Alors, qui suis-je ? Eh bien, je suis un retraité qui consacre son temps libre au roman. J'ai eu une jeunesse qui s'est passée dans les milieux scientifiques, techniques et médicaux. Ensuite, j'ai eu une vie professionnelle très différente et très variée, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de s'y attarder. Et pendant tout ce temps, j'ai toujours été un grand lecteur, j'ai jamais cessé de lire, j'ai englouti toute la littérature d'aventure populaire depuis l'enfance. Je dévore des livres et à force de lire, évidemment, on finit par écrire soi-même des romans. Alors aujourd'hui, je vous présente Les fils d'Esculape, qui est un roman d'aventure médicale. C'est un roman de science-fiction. Le pitch rapidement, c'est la rencontre entre deux professeurs de médecine qui sont en bout de carrière avec un groupe de jeunes étudiants internationaux qui veulent renverser l'ordre établi. Alors, ils vont finir par se rencontrer, ils finiront par s'allier pour proposer une véritable révolution de l'armée. Alors, Les fils d'Esculape, c'est donc un roman sur l'innovation de rupture, pour passer du monde en monde après la crise sanitaire.
Vous racontez l'histoire de l'alliance improbable entre deux illustres professeurs de médecine, l'un adepte d'Hygi et l'autre de Panacée. Pour rappel à nos éditeurs, dans la mythologie grecque, Panacée est une déesse qui prodigue aux hommes des remèdes par les plantes. En quelques mots, quels sont les principes de ces deux personnages mythiques et en quoi ils se différencient ?
Alors, les fils d'Esculape, le titre vient du fait que les deux professeurs de médecine qui ont 70 ans, qui ont une longue carrière derrière eux, il y en a un qui est adepte de Panacée est la fille d'Esculape, le dieu de la médecine, qui disait aux hommes, vivez comme vous voulez et venez me voir quand vous serez malade, je vous donnerai un remède et ensuite vous me sacrifierez un coq pour mon paiement de ce remède. L'autre professeur, le premier professeur s'appelle Eric Meyer, on dira Eric pour faciliter les choses dans la conversation, et le deuxième c'est Charles Lamennais qui lui est amateur adepte d'Hygie. Hygie dit aux hommes, autre fille d'Esculape, Hygie dit aux hommes, vivez selon mes préceptes et vous ne tomberez pas malade. C'est ça la grande différence entre les deux. Et donc, on en a un qui est pour un système d'assistanat, le système moderne, allopathie, sécurité sociale, remboursement, etc. Et l'autre considère qu'en se prenant en main, en se prenant en charge, en ayant une discipline de vie, on réussit à contrôler les problèmes de santé en grande partie. Alors, j'ai quatre autres personnages, les étudiants qui sont autour de lui. Il y a le personnage principal, Arthur, c'est un Français qui est étudiant en médecine, qui est l'élève donc de l'amateur d'Hygi, de Charles. Il y a une étudiante russe qui est rencontrée par un mémoire qu'elle publie sur Internet, un Indien spécialisé en maths et en physique en France faire des études complémentaires, un Chinois qui est un ingénieur en technologie micromécanique, nanomécanique, et qui est venu aussi faire un cursus français pour compléter sa formation.
Donc l'intrigue traite du monde d'après la crise sanitaire. Vous êtes en train de nous présenter les différents personnages. Quels sont leurs intérêts et leurs conflits?
Alors, les deux professeurs sont des agrégés de médecine qui sont aussi docteurs en économie, ce sont des grosses pointures, ils ont plus de 70 ans. Celui qui aime panacer a fait sa carrière dans les grands organismes internationaux, genre OMS, etc. Enfin, dans tous les... Il a été au sommet de la hiérarchie mondiale sur le plan médical. L'autre est resté, Charles, est resté dans l'université par passion de la recherche, par passion de l'enseignement. Alors, l'intérêt, c'est que Charles rencontre, est à la recherche de l'étudiant rare, de la bête rare. Il enseigne pendant des décennies à des étudiants qui sont des bachoteurs de base, qui veulent surtout être diplômés et qui se intéressent assez peu à la médecine finalement. Et puis tout d'un coup, il remarque Arthur et il se dit, tiens, il y a quelque chose, il y en a un qui lève la tête quand je dis quelque chose d'intéressant. De là, il va y avoir un contact entre Arthur et ce professeur et ils vont faire connaissance et ils vont développer une relation avec l'ensemble des camarades qu'il a autour de lui.
Donc Arthur, le personnage principal, semble assez radical dans sa volonté de réformer la médecine allopathique qu'on lui enseigne. Pourquoi ?
Alors il est radical parce qu'il lui arrive une tuile. Au cours de ses études, il a une sœur qui est surfeuse, qui est une athlète internationale, trentaine d'années, qui se retrouve touchée par un cancer généralisé. Et il est obligé d'abandonner ses études pendant un an. Il la suit, il va participer aux soins. Il n'est jamais qu'étudiant, donc il est observateur essentiellement. Ça le choque beaucoup. Parce que quand il voit comment ça se passe, il est très, très déçu par le système. Il était venu en médecine pour apprendre une science. Un professeur lui dit un jour, mais ce n'est pas une science, la médecine n'est pas une science, la médecine est une méthode. Et là, ça le laisse complètement pantois, il se dit, tiens, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. L'expérience qu'il a, qui vit sa chair avec sa sœur, il revient après la mort de sa sœur en faculté. Et puis là, il est enragé. Il se dit, c'est pas possible, on ne peut pas rester comme ça. Il faut faire quelque chose, il faut chercher, il faut fouiller. Alors, comme c'est un esprit brillant, un polyglotte, qui est une connaissance considérable, il cherche, il fouille et il finit par épuiser l'ensemble des médecines alternatives. Et puis, il trouve une ancienne technique abandonnée qui lui paraît très intéressante. C'est-à-dire, c'est une technique biologique qui permet de mesurer les terrains biologiques, d'avoir une idée précise de la bonne santé et d'avoir une idée précise de chaque maladie.
Votre héros se promène ensuite dans les différents services de l'hôpital dont dépend la faculté de médecine, pose trop de questions et crée un scandale parmi les enseignants et les chefs de service. Comment s'en sort-il ?
Il est convoqué par le professeur Charles Lamennais, qui est aussi le doyen compte tenu de son âge, et qui lui fait un petit sermon bien gentil. Et puis finalement, il lui raconte l'histoire de sa sœur, il lui dit, écoutez, moi je suis venu ici faire le savant, je suis venu apprendre, je suis venu chercher, je suis venu dépasser le barreur. C'est comme ça que la collaboration va commencer. Donc pour échapper à l'antipathie qu'il a suscité dans l'université, dans l'hôpital où il se trouve, le professeur le nomme, lui donne une mission de relever de données. Alors il va dans les services, il va interroger les malades, interroger les infirmières sur le mode de vie des gens, sur le mode alimentaire, il fait tout ce qu'on ne fait plus aujourd'hui hôpital. Et aujourd'hui, quand on vous reçoit, on fait des analyses, il y a des machines, et puis il n'y a plus l'aspect hippocratique, si on veut, de la médecine.
Donc, il y a eu l'organisation d'un séminaire en Irlande. Quel est l'objectif de ce séminaire?
Alors, à force de discussion, bah, ils finissent par faire des tests. Arthur n'a pas le droit de faire d'action médicale. Il n'est pas diplômé, donc il n'a pas le droit de prescrire, il n'a pas le droit d'intervenir sur les malades. Mais il arrive quand même à faire des petites opérations, des petites expériences qui se révèlent profitables. Et le professeur, lui, son rôle d'agrégé de médecine, c'est de le pousser dans ses retranchements. Il lui dit, bon, c'est bien gentil d'avoir un petit jeune comme ça qui est audacieux, mais on est quand même dans un monde sérieux, dans un monde qui est cadré. Et il le pousse, il le pousse, il le pousse, jusqu'au moment où il s'aperçoit qu'il a vraiment des capacités à former, à proposer un système différent. Une approche de la physiologie, de la santé, de la maladie, des traitements qui est différent. Et à ce moment-là, il prend contact avec son ancien camarade, Eric, qui est aussi mais qui est encore en activité. Et il se contacte parce qu'il s'est promis de rencontrer un cerveau exceptionnel au cours de sa carrière pour savoir trouver. Donc il s'est dit, il faut que je fasse rencontrer mon ami Eric, parce que lui, il connaît le monde réel, le monde de la grande médecine internationale. Il a un consortium occidental et mondial des industries de santé, qui demande d'ailleurs, qui lui donne une mission.
Donc Charles et Eric, en fait, sont des anciens copains de fac de médecine, mais
Voilà.
ils ont une approche différente de la médecine, c'est ça. Et Charles se
C'est
dit, tiens,
ça.
Eric pourrait peut-être m'aider à travailler sur ce nouveau projet, c'est bien ça.
Voilà. Il se dit, il faut qu'on pilote cette équipe de jeunes fous, parce qu'autrement, ils sont capables de tout casser, ils vont faire du scandale, ça va être une révolution. Et eux, ils veulent faire une révolution, mais une révolution de palette. Ils ne veulent pas laisser arriver et mettre du pied dans le plat. Ils savent aussi très bien que le pauvre garçon va se heurter au système, à l'autorité. Il doit passer, par exemple, sa thèse au bout de ses études. S'il part faire sa thèse avec des idées pareilles, il est sûr de ne pas avoir son diplôme. Donc il décide, si on veut, de le confronter avec Eric, qui est lui un esprit sceptique par excellence, rationaliste, qui a pas à perdre avec les farfelus. Donc, ils vont en Irlande à la faveur d'un séminaire et puis ils se confrontent pendant une semaine.
D'accord. Alors, pendant ce fameux séminaire en Irlande, un séminaire de confrontation entre les jeunes et les anciens, on voit apparaître en arrière-plan plusieurs organisations qui mettent tout ce beau monde sous surveillance. Qui sont ces gens?
Alors, Les Fils d'Esculape, c'est aussi un roman d'aventure. C'est un roman. Il y a une partie d'espionnage, il y a une partie policière. Il y a des agents d'influence internationaux qui obéissent à un émissaire, qui travaillent pour quelqu'un qui est un personnage un peu mystérieux. Je laisserai le lecteur se charger de lui donner une personnalité ou de le situer comme il voudra dans l'histoire. Ces agents d'influence sont inquiets parce que ils sont obligés de surveiller des gens de cette importance, comme les deux professeurs, parce qu'ils savent que si ils viennent sur le devant de la scène, ils mettent le système en place. D'autant plus que les agents, on leur reproche d'avoir raté la crise sanitaire. Ce sont des gens qui s'étaient promis de faire une vraie crise bien, bien sanglante et bien mortelle, et puis manque de chance. Dans le roman, nous sommes dans de la science-fiction, je le rappelle, la crise est un échec. Bon, mais en même temps, pas permis tout ce qui était souhaité, bouleverser le monde radicalement, mettre la main sur le genre humain, etc. Ça n'a pas abouti comme selon les promesses faites.
Donc, sans vouloir
Aussi
dé...
un autre, il y a aussi
Oui.
un autre, il y a les services de renseignement d'État ordinaire, renseignement intérieur, qui surveillent quand même ces gens-là, parce que ça, c'est le rôle du renseignement intérieur, hein, dans toutes les sociétés, ça existe. Et puis aussi les agents de renseignement du consortium qui veulent savoir où leur poulain est en train de mettre les pieds. Parce qu'ils ont, eux, ils ont un grand business depuis plusieurs générations qui est à bout de souffle. Ils ont demandé au professeur Eric Meyer de trouver des solutions innovantes. Donc, ils ont besoin de surveiller tout ce monde-là pour savoir dans quel sens ça va partir.
Donc là, on est dans une force très puissante qui est la médecine allopathique, c'est bien ça?
Oui.
Alors, sans vouloir dévoiler toute l'histoire, vous prêtez à votre héros et à ses acolytes d'imaginer des protocoles et des techniques de soins qui paraissent tout à fait originaux et efficients. Par exemple, ils tentent de réveiller un coma profond avec une cure hydrique. Pouvez-vous nous en parler? Et pensez-vous que ces techniques pourraient un jour passer de la fiction à la réalité?
Alors, dans l'hôpital, Arthur, il a envie d'agir. Et avec le professeur, sous l'autorité et la protection du professeur Charles, il propose de s'occuper d'un comateux qui est en bonne santé, mais qui est dans le coma. Et il se dit, on va essayer de l'hydrater d'une autre façon, parce que là, il est hydraté évidemment par intraveineuse. Et il se dit, on va faire autrement. Alors, il fait ça pourquoi? Il fait ça parce que quand il est allé s'occuper de sa sœur, il a trouvé une documentation considérable sur une technique abandonnée, faite par un savant qui est mort depuis longtemps. Et il a trouvé de la documentation et il a vu des expériences de ce genre déjà faites. Donc, il se dit, on va remettre tout ça à jour. Avec les technologies modernes, on a des moyens de surveillance, on a des moyens de contrôle, on a des moyens d'intervention. Et donc, il propose de réhydrater par voie digestive un comateux pour voir si ça change son état de santé, si ça peut le réveiller. Comment y arriver?
Un des jeunes étudiants brillants explique qu'il y a trois accès à la physiologie humaine, la voie aqueuse, la voie énergétique et la voie chimique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Oui. Arthur, quand il regarde un patient ou un être humain, il regarde la totalité. Il veut avoir accès à tout. Il s'appuie pour l'enseignement, il y a la voie chimique qui compte. Or, la voie chimique, la chimie dans un corps humain, c'est 20% de la composition du corps humain. Un corps humain est composé de 60% d'eau, à peu près, hein, je donne des chiffres, on est dans la science-fiction, que les techniciens ne m'en veuillent pas, certains me diront c'est un peu plus, c'est un peu moins, on ne va pas chipoter. Hein, on est en train de faire de la science-fiction, on n'est pas en train de faire de la science ou de donner des conseils à qui que ce soit. Donc, il voit qu'il y a de l'eau, qui est sans laquelle il n'y a pas de fonctionnement normal. Il y a une structure chimique, les tissus, l'ensemble des organes, et puis il y a les additifs divers, les bactéries, les bactéries qu'on a dans l'organisme, il y a plus de bactéries dans le corps que de cellules, et tous les oligo-éléments, etc., tous les éléments additifs. Il te dit, il y a aussi un champ électromagnétique qui gère tout ça. Et il se dit, on n'a pas que la voie chimique, on ne peut pas simplement se contenter de balancer des molécules comme ça, industrielles.
Hein. Donc là, vous parlez des médicaments, vous parlez tout simplement des médicaments qui sont basés sur la chimie, en fait. Cet étudiant fait référence à ces molécules, c'est ça?
Ben oui, c'est-à-dire que lui, on lui apprend tout ça, il y a cette solution. Hein. C'est ou de la chirurgie, ou de la radiothérapie, ou de la chimie, ou les trois en même temps. Donc ça peut lui convenir, parce qu'il perçoit bien qu'il y a des failles, il y a des... Ça ne fonctionne pas, puis il a toujours le souvenir de sa sœur, il n'arrive pas à comprendre qu'on lui ait proposé que ça, quoi. C'est pas possible. Pourquoi on en est arrivé? Pourquoi quelqu'un en bonne santé de 30 ans, une vie saine, qui n'a mis aucune erreur, se retrouve dans une situation de stress logique?
Alors, le projet auquel vos jeunes francs-tireurs veulent rallier le professeur, adepte de Panacée, intègre les nouvelles technologies. Ils conçoivent notamment une forme de communauté médicale libre d'accès. Pensez-vous que ce genre d'organisation spontanée puisse un jour détrôner le monopole de Big Pharma dans la réalité?
Effectivement, ils se sont ensemble pour au bout du jour, la vieille technique qu'ils ont trouvée, que Arthur a trouvée, il numérise tout ça, quoi. Il y a l'ordinateur, il y a toutes les technologies modernes, il y a les réseaux sociaux. Donc, l'étudiant chinois est un spécialiste de la mécanique, de la fabrication des puces électroniques, etc. Donc, ils inventent un bracelet qu'on met aux malades et qui est lié, qui est connecté à un système de réseau, une blockchain en fait, qui est mondiale, qui reçoit tous les volontaires, que ce soit des malades, des patients ou des gens qui veulent simplement surveiller leur santé ou bien des professionnels de santé. C'est une sorte d'organisation horizontale, sans tiers de confiance, dans laquelle il y a un système de jetons, de tokenisation. Les patients qui donnent leurs données reçoivent en échange des droits à des consultations ou à des soins ou à des diagnostics. Et les professionnels, eux, acquièrent des unités de valeur qui peuvent après faire valoir auprès d'employeurs, d'hôpitaux, etc. dans leur travail. Et ce genre d'organisation, alors évidemment, je fais de la science-fiction, j'imagine ça sur un plan mondial. Arthur sait très bien quand même que le taux de pénétration qu'il espère ne dépassera pas 30% des populations. Parce que 70% des gens préféreront toujours fermer les yeux et s'en remettre comme des chiens au fil de l'eau à leur médecin. Alors on leur dira, docteur, faites-moi quelque chose, je ne veux pas le savoir quoi, mais allons-y.
Donc s'en remettre à la médecine moderne, c'est-à-dire allopathique, c'est bien ça?
Oui.
Alors dans votre roman,
il est en train de faire une révolution. Il sait très bien qu'il va pas pouvoir convaincre tout le monde. C'est pas possible. Les gens veulent qu'on leur. Les gens n'ont pas tellement envie de se prendre en main. Alors il se dit, si on a 30%, c'est déjà une bonne chose. On va. Il est sûr que ça va diminuer au fur et à mesure. Mais il n'y a pas d'illusion là-dessus.
Alors, dans votre roman, on se retrouve aussi en Afrique avec une mystérieuse épidémie qui décime des milliers d'éléphants, qui sera instrumentalisée contre un personnage surnommé Poche Profonde. Quel est son rôle ?
Alors, Poche Profonde, c'est un. Alors, là, on revient au conflit qu'il y a entre les anciens et les modernes dans la grande industrie pharmaceutique. Vous avez les anciens qui ont des business, des usines, des unités de production, qui fabriquent de la quantité depuis des générations. Ils financent, ils achètent des startups, ils achètent des molécules partout dans le monde, ils font des brevets, mais ils arrivent en bout de course. Ils s'aperçoivent qu'ils dépensent énormément d'argent pour payer des petits jeunes, des startups, des choses comme ça, qui leur promettent la lune, et finalement, pour 100 entreprises, il n'y en a pas une qui s'avère rentable. Alors, on représente justement ces personnages qui ont réussi sur le net, qui ont fait des exploits extraordinaires, des fortunes gigantesques, mais qui surtout ne produisent pas grand-chose. Si je voulais prendre un exemple qui n'a rien à voir, je comparais Tesla et General Motors, par exemple. Vous avez Tesla qui doit faire quelques dizaines de milliers de voitures par an, et qui vaut plus cher en bourse que General Motors, qui en fait des millions, et qui emploie des millions de personnes. Donc, les anciens se disent, attendez, c'est nous la puissance industrielle, et on est en train de se faire manger, et ils ont peur en plus de se retrouver en faillite, de se faire racheter par ceux qui ont la puissance financière, les petits jeunes qui ont réussi à avoir des positions financières en bourse extraordinaires, et qui leur donnent des moyens, qui leur donnent des munitions pour leur tomber dessus. Donc il y a une lutte féroce entre les anciens et les modernes, ceux qui possèdent les usines, les unités de production classiques, et puis les nouveaux qui veulent tout casser aussi, qui veulent se débarrasser des vieux, au passage ramasser cher dans des faillites les usines qui existent, et puis quitte à les faire coter en bourse, etc. Comme on fait une OPA agressive. Donc il y a ce conflit. Alors, le problème, c'est que ces petits jeunes vont en Afrique, parce que l'Afrique, c'est un territoire vierge. On peut acheter des chefs d'État, on peut corrompre les administrations sont quasi inexistantes. On obtient des autorisations de faire des essais sur les populations. Et poche profonde, et un de ces personnages-là qui fait des essais directement dans la nature pour ses produits, leur toxicité, et il fait ça avec les troupeaux d'éléphants sauvages. Manque de peau, ça se passe mal, et on a une épidémie de mortalité soudaine où les enfants, les éléphants, au lieu de mourir de mort naturelle, ils meurent de problèmes neurologiques. On les retrouve tous à genoux, un éléphant qui meurt normalement, ça se couche sur le côté, etc. Bon, il y a des choses qui sont bien connues. Et puis, d'un seul coup, on s'aperçoit qu'il y a une épidémie, mais on ne sait pas de quoi. Et les tenanciers de l'industrie savent tout ça. Ils savent qu'il y a des expériences. Ils savent. Et ils savent. Ils se surveillent entre eux. Et ils se disent, ça y est, on le tient, le petit jeune, on va lui mettre tout ça sur le dos. Et ils essayent de l'éliminer avec cette opération. Donc, il y a une cabale qui se met en route contre Poche Profonde pour l'éliminer, pour qu'eux gardent leur monopole. Alors évidemment, mes héros dans tout ça ont des réseaux, ont des lanceurs d'alerte sur place, sont liés avec des étudiants qui sont dans tous les pays du monde, qui signalent ce qui se passe. Donc il y a une véritable bagarre entre les voix en quelque sorte qui sont dans leur petit bureau et puis les grandes entreprises qui se retrouvent en train de se bagarrer entre elles et qui ont besoin aussi de surveiller les nouveaux arrivants là, qui étaient un peu posés encore plus de problèmes.
Alors juste avant de vous poser la prochaine question, si vous pouvez juste faire attention de ne pas toucher le micro parce que ça fait des grisouillis.
Ah, c'est ma feuille qui doit...
Oui. Alors, quel type de système de santé vos jeunes veulent mettre en place? Encore une fois, pourrait-on le transposer de la fiction à la réalité?
Je pense que oui, ils ont un système de santé connecté, c'est-à-dire qu'on peut faire de la médecine à distance, ça existe déjà. On peut opérer... à des milliers de kilomètres de distance, on a des robots maintenant pour opérer. Je crois qu'il y a eu une opération d'une femme qui a été opérée d'une tumeur au sein, qui fait partie d'une équipe, je crois que c'est en Antarctique ou en Arctique, et qui peut être évacuée, qui a été opérée de cette façon par des satellites et par connexion avec un chirurgien qui peut être aux États-Unis. Donc ça existe déjà, mais évidemment, ils veulent un système plus global. Faire de la chirurgie à distance, c'est une chose. Maintenant, du diagnostic à distance, faire du soin, il faut que ce soit universel, il faut toucher l'ensemble des populations. Ça ne sert à rien de soigner une personne. Il faut l'ensemble de la population. C'est une question de santé publique. Et je pense qu'un jour, effectivement, on pourra avoir ça. Alors, le grand souci, c'est le côté hypocratique, c'est-à-dire qu'il veut défendre absolument la propriété de l'individu. L'individu est titulaire de sa santé. Il est titulaire de sa vie, de lui-même. Il est propriétaire de lui-même. Et ça, ils y tiennent beaucoup. Donc, ils garantissent l'anonymat, par exemple, dans leur système de blockchain. On peut y aller, on peut l'utiliser temporairement, on peut en sortir. On n'est pas prisonnier d'un système genre Big Brother où on devient un esclave et... Donc ça, c'est quelque chose qui défend l'ongle.
Alors, vous parlez de technologie blockchain. L'intérêt de cette technologie, c'est quoi pour nos éditeurs?
C'est de se passer d'un tiers de confiance. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'académie de médecine. L'académie de médecine, elle est permanente. C'est l'ensemble des participants. Quand quelqu'un amène une nouveauté, il la met... Il participe en mettant sa découverte sur la blockchain et tous les participants de la blockchain sont amenés à la vérifier, à y participer, à donner leur avis, à donner des avis techniques, ce qui fait qu'il y a un regroupement de données qui est tout à fait extraordinaire et ça va extrêmement vite. Et on n'a plus besoin d'adresser un mandat à une corporation, une académie de médecine qui est sclérosée depuis longtemps et qui est toujours en retard en fait, sur le progrès.
Alors, sans dévoiler la fin, votre roman « Les fils d'Esculape » ouvre des perspectives positives et prometteuses. Vos personnages renouent notamment avec le trio de la médecine hippocratique, malade, maladie, médecin, qui redonne à chaque personne la responsabilité de ses choix et la liberté de la décision finale. Croyez-vous au progrès et comment voyez-vous l'issue de la crise actuelle?
Moi, je crois beaucoup au progrès, et pas du tout au progressisme, qui est une religion. Ce n'est pas parce qu'on invente quelque chose qu'il faut y aller, non. Il faut d'abord regarder où on met les pieds, il faut avoir des principes, il faut avoir des principes de base, il faut savoir définir l'être humain, quel est son rôle, quelle est sa définition. L'être humain n'est pas une vache, hein, qu'on doit piquer, qu'on doit placer, qu'on doit nommer, qu'on doit non. Mon héros se encore une fois, donne beaucoup d'importance au triangle, c'est-à-dire le malade, sa maladie, qui est la maladie du malade, celle du médecin. Le malade n'est pas le cobaye du médecin. Le malade a une maladie, il a un problème, il n'arrive pas à la résoudre lui-même, il va voir un médecin pour demander un conseil. Et ensuite, il prend la décision de suivre l'avis du médecin ou pas. C'est ça la doctrine que Arthur veut suivre. Il garantit les droits individuels fondamentaux. Il garantit la liberté individuelle fondamentale.
Est-ce qu'il y a un autre élément que vous voulez rajouter? J'ai juste une dernière question sur la manière de se procurer vos romans. Est-ce qu'il y a un autre point que vous voulez rajouter dans ce livre que vous avez écrit?
Alors, c'est un roman qui n'est pas un roman de science-fiction. C'est en aucun cas un manuel de médecine, c'est en aucun cas un manuel technique, c'est en aucun cas un conseil. Je pense que les gens sont assez grands pour savoir ce qu'ils doivent faire. Les gens sont adultes, ils sont responsables d'eux-mêmes, et c'est à eux de décider en toute conscience de ce qu'ils doivent faire d'eux-mêmes. Personne n'a à leur dicter leur comportement. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Maintenant, il y a des gens qui préfèrent se coucher, ils se couchent, ils ont le choix de se coucher. Je pense simplement que ce roman ouvre, si on veut, une autre perspective, qui sont évidemment totalement fictives. Je me situe un petit peu comme Jules Verne quand il fait l'invente du siècle, un certain nombre de choses qui se sont révélées, vérifiées. Tous les romans de Jules Verne se sont réalisés, sauf un, ce qui est Voyage au centre de la Terre. Aujourd'hui on a des sous-marins nucléaires à propulsion électrique. Et lui, il en parlait déjà au 19e siècle. Donc, je suis bien dans le cadre de la science-fiction et je ne suis pas là pour donner des conseils ou des avis ou des recommandations à qui que ce soit.
Alors, dernière question pour terminer notre interview. On peut se procurer votre ouvrage sur Amazon.fr, donc en tapant Jacques Bézalet. Ou les fils d'Esculape, et puis tous les bouquins seront listés. Vous avez écrit d'autres romans, pouvez-nous vous présenter brièvement et qu'avez-vous comme projet en cours?
J'en ai beaucoup. J'ai toujours un certain nombre d'histoires qui mijotent tranquillement. Je préfère les laisser pour l'instant là où elles sont, dans les limbes où elles sont. J'ai écrit effectivement plusieurs romans. Le premier roman que j'ai publié, c'est un roman sentimental qui s'appelle Laura Bride, qui est aux éditions Nestor, un roman sentimental. Ensuite, Le voyage de la butineuse, qui est un roman en e-book en deux tomes, qui est un voyage autour du monde. Alors, c'est une aventure un peu comme Un capitaine de 15 ans de Jules Verne au XXe siècle. Au XXIe siècle. Ensuite, Le camion de lait. Alors, Le camion de lait, c'est un peu 1984, mais au XXIe siècle. Alors, c'est pareil, ça se passe dans une société totalement urbanisée, où la population est sous terre. Bon, il y a un fauteur de trouble, un trouble fait, qui arrive et puis qui met la pagaille là-dedans, qui s'échappe du système, et puis c'est la mouche dans le lait, le grain de sable que personne n'avait prévu. Il invente un véhicule qui maîtrise la gravité et puis il va poser des problèmes évidemment aux militaires. Il demande qu'est-ce que c'est que ce qui apparaît dans les airs et qui met en cause leur puissance personnelle. Donc c'est un livre de science-fiction, là. C'est ceux qui sont amateurs de ou choses comme ça, ils trouveront leur compte.
Donc
Ensuite, j'ai lu les
d'énergie
films d'Ecclap.
d'énergie alternative, c'est ça, si on parle
Oui.
d'antigravité?
C'est une façon de voir l'univers d'une autre façon. Alors moi, j'ai été dans ma jeunesse entouré de nombreux scientifiques, des savants. J'ai couru les séminaires, les congrès, etc. Donc j'ai été en contact avec beaucoup de gens très intéressants et j'ai été appelé à m'intéresser à de la science, aux sciences de l'avenir, hein. Donc évidemment, ça transparaît dans les romans que j'écris. Le fils d'Esculape dont on vient de parler, donc ça c'est un roman à caractère médical. Et le dernier qui a été publié, je crois c'était il y a un mois ou deux, enfin, qui est du début de la, oui, de la fin de l'année dernière, le climat sur la transition énergétique et qui évidemment est iconoclaste également, hein. Je ne suis pas dans le mainstream, c'est pour résumer la situation.
Alors, juste pour présenter à nouveau ces trois derniers bouquins que vous avez écrits et celui dont on a parlé aujourd'hui, Les Fils d'Esculape, ici que vous pouvez vous procurer sur Amazon.com. Ensuite, il y a Carbone hein, qui parle des éoliennes et de questions climatiques. Et puis, le troisième, c'est le fameux Camion de lait qui est plus par rapport à des énergies, des technologies alternatives. Avec donc différents personnages. Je vous conseille de vous procurer ces trois livres sur Amazon.fr. Je mettrai le lien en bas de la description vidéo. Voilà, cet entretien est terminé. Merci beaucoup pour nous avoir fait découvrir ces trois romans. Et est-ce que vous voulez dire un dernier petit mot?
Eh bien, je dirais aux gens aujourd'hui, instruisez-vous, cultivez-vous. Vous êtes dans un système qui fait de vous des illettrés, des incultes. Alors, contre-pied, lisez des livres, lisez des livres, lisez des livres.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.